Vous pouvez chercher le livre de Daniel avec moi, Daniel chapitre 9. Une première partie nous a été déjà lue et nous allons lire la suite. Et avant de lire ces versets, je rappelle que nous étudions ce livre de Daniel depuis quelques semaines. Et une raison que nous étudions Daniel cette année, c'est qu'il parle aussi beaucoup de la prière. Daniel, c'était un homme de prière. Vous avez vu ça à plusieurs reprises. Daniel et ses amis, dans les premiers chapitres, ont prié pour l'explication du songe. Ils l'ont eu de la part de Dieu. Et puis Daniel et ses amis se sont montrés comme des personnes qui prient le vrai Dieu. Ils ont refusé de prier des idoles et des faux dieux. Et pour cela, ils ont même subi la fournaise ardente, la fosse aux lions. Donc on voit vraiment un homme de prière. Et c'est ça qui est touchant, qui est frappant dans ce livre, c'est que Daniel, il est en exilé à Babylone. Il est loin de son pays. Il est loin de son temple, qui était le lieu de prière, la maison de prière pour son peuple. Mais ce livre montre que Dieu est tout aussi présent, tout aussi puissant, tout aussi roi en Babylone qu'à Jérusalem, qu'en Israël. Et quand vous vous sentez loin de Dieu, souvent vous n'avez jamais été si proche, si c'est l'occasion de vous tourner à lui dans la prière. Et une prière sincère, authentique, quand on est loin de Dieu, quand on se sent en exil, vaut beaucoup mieux qu'une prière hypocrite dans le temple, comme on a souvent trouvé dans la Bible. Et voilà l'encouragement de Daniel dans notre vie de prière. Et dans ce chapitre, chapitre 9, nous avons une des plus grandes, des plus belles prières de la Bible. Mais non seulement ça, comme nous allons voir ce matin, non seulement une belle prière, mais nous avons une des réponses à la prière les plus étonnantes. Et Dieu va encore montrer qu'il aime bien exaucer nos prières, bien au-delà de tout ce que nous pensons et tout ce que nous imaginons. Voilà ce que nous allons voir en Daniel chapitre 9. Alors je reprends la lecture à partir du verset 12, puisqu'on a déjà lu verset 1 à 11. On est dans cette prière de confession de Daniel, après qu'il avait lu des choses dans la Bible, dans le prophète Jérémie. Donc il est en exil, mais il pense à Jérusalem, et cette envie de revenir, d'être restauré. Verset 12 dit, Dieu a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier, une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et il l'a fait venir sur nous. Car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte. Car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu. Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et tout ce qui était résolu fonde sur le dévastateur. Daniel chapitre 9. Alors notre texte ce matin se trouve dans la deuxième partie de Daniel. La première partie contient des histoires qui sont plutôt bien connues. La fosse aux lions, l'écriture sur le mur, la fournaise ardente. Mais à partir de chapitre 7, le style change de ce livre de Daniel et nous trouvons toutes ces visions, souvent un peu bizarres, un peu étranges, que Daniel va recevoir. Et le style de rédaction devient ce qu'on appelle apocalyptique, qui ressemble un peu à l'Apocalypse, justement, avec beaucoup de symbolisme dans ces visions que Daniel reçoit, des bêtes féroces dont on a parlé la semaine dernière dans les chapitres 7, un bouc et un bélier et des cornes dans le chapitre 8, et puis pas mal de chiffres qui j'avoue, sont pas faciles toujours à comprendre. Hein. La deuxième partie de Daniel nous est moins accessible que la première partie ou les histoires que nous aimons bien. Mais si ça peut vous rassurer, même Daniel était troublé et n'a pas tout compris de ce qu'il recevait en vision. Mais la deuxième partie de Daniel véhicule le même message que la première partie du livre de Daniel, c'est que Dieu, il maîtrise les temps, il maîtrise les nations, et il a un plan pour son peuple, il maîtrise l'avenir, c'est lui le Dieu suprême de l'univers, c'est pas ses rois et ses empereurs et ses empires qui se succèdent, qui ont le dernier mot, c'est le Dieu qui règne dans le ciel, et il a un plan pour le peuple de Daniel, il a un plan pour nos vies, et il maîtrise l'avenir. Il est le roi des rois et son royaume dure éternellement. Ça, c'est le message qui parcourt ce livre de Daniel. Et Daniel reçoit ses visions, mais toutes ses visions annoncent à peu près la même chose. C'est la même vision qu'il a vue dans la statue où il y a plusieurs royaumes, mais enfin le royaume éternel de Dieu. Dieu va renverser les puissances du mal et instaurer son royaume. Alors, le chapitre 9 ce matin est particulièrement difficile à comprendre. Mais voyons si elle peut nous aider, ce chapitre, il peut nous aider dans notre vie de foi, notre vie de prière, parce que ce chapitre contient quand même quelques clés pour comprendre les autres visions et l'ensemble du livre de Daniel. Et pour ne pas vous perdre d'emblée, je vous préviens que le chiffre 70 joue un rôle important dans ce chapitre. Alors c'est sûr, on peut abuser le symbolisme des chiffres dans la Bible, et ça ne manque pas, même parmi les chrétiens. Mais dans ce contexte prophétique et apocalyptique, les chiffres sont quand même importants et intéressants à comprendre. Et comme vous avez vu, c'est un 70 qui déclenche la prière de Daniel, quand il lit ça dans les premiers versets. C'est un 70 qui déclenche la prière de Daniel, et c'est avec un 70, un multiple de 70 en tout cas, que Dieu va répondre à sa prière. Donc, ne perdez pas ça en tête, c'est pour ça que j'ai même mis quelques chiffres pour ne pas vous perdre. Et pour vous aider à comprendre peut-être tout ça, j'ai pensé, cette semaine j'ai vu une pub pour les capsules de Nespresso. Donc, une grande, c'est une affiche bleue avec le logo de Nespresso, et puis il y avait 4 tasses de tailles différentes. Jusque-là. Et sous chaque tasse, il y avait un prénom. Et voici les 4 prénoms, peut-être vous avez vu cette pub. Joe, William, Jack et Avarel. Donc, 4 tasses de tailles différentes, allant du plus petit au plus grand. Joe, Jack, William et Avarel. Ça, c'était le pub. Pas d'autres explications, mais c'est censé vous encourager à acheter des capsules Nespresso pour votre café. Alors, cette pub s'appuie sur quelque chose que tout le monde en France connaît, mais c'est pas sûr que moi, quand je venais d'arriver en France, j'aurais compris cette pub avec ses prénoms. Et même, il y a peut-être ici des personnes qui arrivent récemment en France ou qui n'ont pas un arrière-plan, qui connaissent pas en tout cas les bandes dessinées de Lucky Luke et les frères Dalton pour reconnaître William, Jack, Joe, Jack et Avarel, toujours de tailles différentes. Mais a priori, le pub veut montrer que maintenant vous pouvez acheter des capsules avec plus ou moins de café dedans pour la taille de votre tasse. Mais vous voyez comment quelque chose de très connu dans la culture, sans être forcément tout expliqué, peut évoquer beaucoup de choses et peut véhiculer tout un message. Et les auteurs de la Bible fonctionnent un peu comme ça. Ils vont s'appuyer sur les choses qui apparaissent dans la loi de Moïse, qui apparaissent dans les textes de la Bible, qui sont très connues, très évocatrices pour le peuple juif, et qui vont inspirer des pensées, et qui eux, ils vont bien comprendre. Et c'est souvent le cas dans ces passages symboliques, apocalyptiques, et c'est le cas ce matin avec le chiffre 7 et le 70. Bien sûr, le but de ce matin, c'est pas de faire des maths, mais c'est de fortifier notre foi, de rester fidèle à Dieu à notre époque, quelles que soient les situations qui autour de nous, quelles que soient l'état politique, l'état économique, quelle que soit la situation autour de nous, nous pouvons, nous aussi, comme Daniel, rester fidèles à notre époque parce que nous connaissons un Dieu qui maîtrise les temps et les nations et qu'il a le projet de délivrer son peuple au temps que lui, il a décrété, au temps qu'il a fixé. Voilà le message de Daniel. Là, ce matin, j'aimerais voir d'abord la prière de Daniel, cette prière si touchante de confession, et ensuite la réponse de Dieu, qui est une incroyable et belle réponse, qui va bien au-delà de ce que Daniel peut même imaginer. Donc, tout d'abord, voyons cette prière de Daniel. Alors, cette prière est inspirée par sa lecture de la Bible, tout comme vous pouvez lire votre Bible et être motivé à prier, en fonction des textes que vous avez lus. Donc un jour, Daniel est en train de lire et il lit le verset 2 qui dit que je vis par les livres, notamment le prophète Jérémie, en l'occurrence de chapitre 25 du prophète Jérémie, nous n'allons pas le lire ce matin, mais Jérémie 25 parle de ce temps que le peuple sera en captivité à Babylone et Jérémie annonce qu'il sera de 70 ans que le peuple sera déporté, exilé en Babylone avant de pouvoir revenir dans leur pays. Donc Daniel lit déjà par les livres, il lit sa Bible, dont Jérémie, mais certainement il a aussi d'autres passages en tête, comme je vais vous montrer. Et cette lecture de la Bible, il va tomber sur cette vérité, cette promesse, il va saisir cette promesse, il va s'inspirer de d'autres textes et il va se tourner à Dieu dans la prière, une prière de confession, mais aussi une prière où il demande à Dieu d'agir selon sa parole. Parce que lui, il regarde son calendrier et il dit, ça fait à peu près 70 ans, Daniel c'est un vieux maintenant, mais ça fait à peu près 70 ans que nous sommes, moi et mon peuple, nous sommes ici en captivité. Et Jérémie dit que ça va faire 70 ans. Alors pourquoi 70 ans de captivité? Et c'est là où il y a d'autres thèmes dans la Bible qui méritent d'être creusés. Mais Dieu avait dit la raison pour laquelle le peuple allait partir en 70 ans de captivité. Et déjà, ça commence avec le fait que la vie de foi du peuple juif était basée sur des cycles de 7. Avec les sabbats, vous savez, chaque semaine, il y avait le sabbat où ils devaient mettre à part, se reposer pour rappeler Dieu, sa création et sa provision dans leur vie. Donc, tous les semaines, il y avait un sabbat, mais après, Dieu a dit qu'aussi tous les 7 ans, il y a une année sabbatique. Donc, vous avez ces détails en Lévitique, chapitre 25. Donc, ce matin, pensez à Jérémie 25, Lévitique 25. On a lu Psaume 25, qui était aussi une prière du gouvernement. 25, ça va vous aider. Jérémie 25, Lévitique 25 décrit ce cycle de sabbat que les Juifs devaient respecter pour honorer Dieu. Donc, des semaines de sabbat, mais aussi des années sabbatiques. Donc, tous les 7 ans, ils devaient laisser reposer la terre, faire confiance à Dieu de pouvoir à leurs besoins et respecter sa priorité dans leur vie. Donc tous les 7 ans, une année sabbatique. Et puis tous les 7 fois 7 ans, c'est-à-dire tous les 49 ans, tous les 50 ans, il y avait encore une année sabbatique spéciale qu'ils appellent l'année jubilée pour marquer un sabbat fois 7. Donc, vous voyez, ces 7 commencent à s'additionner, se multiplier. Mais les Juifs devaient respecter un sabbat hebdomadaire, un sabbat tous les 7 ans, et puis un sabbat tous les 50 ans, après 49 ans. Et cette pratique des sabbats était au cœur de leur loi, c'était un des meilleurs reflets de leur attachement à Dieu, parce que c'était l'occasion de voilà, se détourner de leurs occupations, de se reposer en Dieu, de lui faire confiance, de pouvoir, pendant le jour ou l'année qu'il devait se reposer. Et cette année jubilée même, c'était l'occasion de remettre les dettes, de reprendre les terres, de célébrer la libération, un reflet de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et donc cette vie des sabbats, tous les 7 ans, était une manière de vivre leur foi. Et c'était au cœur de la loi de Moïse. On a le sabbat dans les 10 commandements, mais partout dans la loi, on décrit comment ils doivent vivre ça. Et juste après Lévitique 25, qui décrit les sabbats, Lévitique 26 dit, si vous désobéissez à ma loi, si vous négligez cette vie de foi, cet attachement, cette obéissance, eh bien, je vais vous châtier, je vais vous résister avec fureur, et je vais vous châtier 7 fois plus pour vos péchés. Donc c'est une expression, mais voilà, il y a une punition multipliée par 7 lorsqu'on rejette Dieu et on le bannit de sa vie. Et ce chapitre dit que voilà, vous allez partir en exil si vous négligez mes lois, mes commandements. Vous allez partir en exil et le pays sera dévasté, le pays sera en repos et le pays va profiter du repos tous les ans, pour tous les ans que vous n'avez pas respecté les années sabbatiques. Donc là, on comprend mieux les 70 ans de captivité. Quelque part, c'était pour toutes les années qu'ils n'ont pas respecté les années sabbatiques. Dieu a fait reposer son pays, sa terre, et il les a exilés, déportés en Babylone. Et ça pourrait même correspondre au temps des rois. Il y avait à peu près 500 ans des temps des rois. Et s'ils ont négligé ces années sabbatiques tout ce temps-là, Dieu fait justice en quelque sorte, en rattrapant les 70 ans qu'ils ont ratés. Donc tout ça, ça pousse Daniel à cette prière de confession parce qu'il comprend. Il comprend la justice du verdict de Dieu. Il comprend la justice de son châtiment, de sa punition qui correspond tout très bien à la loi de Moïse. Mais il saisit aussi la promesse d'une restauration, comme Jérémie avait annoncé. Après, vous allez pouvoir revenir. Et sa prière, donc, devient vraiment une prière modèle. Il se fait porte-parole pour tout le peuple de Dieu. Et il se lance dans cette prière de confession, en saisissant les promesses de Dieu, en saisissant le caractère de Dieu, en saisissant les vérités de la Bible, pour inspirer sa prière. Je me dis que cette prière aussi, elle peut nous inspirer. Elle devient un modèle, elle donne le ton de notre vie de prière, de notre relation avec Dieu. D'abord, elle est très biblique, comme nous avons déjà dit. Cette prière est saturée de la loi et des prophètes. On voit que Daniel connaît très bien Lévitique 25, et Lévitique 26, et Psaume 25, et Jérémie 25, et bien d'autres textes. Il dit que, justement, en verset 11, il dit: alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse. Et aussi, il prie parce qu'il avait lu la Bible. Et encore, je rappelle que oui, la santé de notre vie de prière dépend directement de notre connaissance de la Bible, de notre connaissance du Dieu de la Bible. Et ce Dieu, nous allons le découvrir dans la Bible. Et c'est ça qui donne la santé à notre vie de prière. Aussi, cette prière, je la trouve modèle parce qu'elle est humble. Elle est empreinte de cette humilité, de cette repentance, qui est la clé de la restauration. J'ai entendu un psychologue remarquer, parfois un psychologue chrétien, mais il a remarqué ce phénomène qu'il trouvait dans les textes juifs, dans l'Ancien Testament, l'histoire du peuple juif. Et il remarque que quand le peuple juif se trouve mal en point, la tendance de l'Ancien Testament, la tendance des prophètes, c'est, il trouvait ça étonnant, c'est pas de blâmer les autres pour leur sort, mais c'est de s'humilier, c'est de s'examiner, c'est de confesser, de se repentir. Et on a de passage les prophètes et des hommes comme Daniel poussent souvent dans ce sens. Daniel, il aurait pu blâmer les Babyloniens toute sa vie. Daniel aurait pu choisir la voie de l'amertume toute sa vie. Il aurait pu dire tout est de leur faute. Et quelque part, il n'avait pas tort. C'est les Babyloniens, pour les mauvaises raisons, qui ont détruit sa ville, qui ont détruit le temple. Et donc, il aurait pu vivre dans l'amertume toute sa vie auprès de ces méchants Babyloniens. Mais dans ce chapitre, ce n'est pas l'attitude principale qu'il adopte. Et il nous apprend, finalement, Daniel nous apprend à déplorer, à plus déplorer le mal en nous que celui chez les autres. Et ça, c'est tellement clé pour restaurer une relation, déjà auprès de Dieu, et puis avec les autres, de pouvoir envisager la bénédiction de Dieu. Je trouve fort que l'Église est la seule institution dont une activité régulière, normale, c'est de confesser nos péchés. Pas comme nous avons fait ce matin, nous avons chanté ensemble, pardon Seigneur, pardon. Nous avons prié ensemble dans ce sens. L'Église, c'est la seule institution qui fait ça régulièrement. Je ne parle pas d'une confession confessionnelle, mais je parle de cette démarche individuelle, privée et aussi collective, de reconnaître nos manquements, nos lacunes. Vous ne verrez pas ça lors d'un conseil municipal. Vous imaginez un conseil municipal qui commence, ok, tout le monde, nous allons chanter pardon, Seigneur, pardon, pour tout ce que nous n'avons pas bien fait. Une équipe de foot ne commence pas ses matchs comme ça. Une entreprise ne vit pas ça. Mais l'Église de Jésus-Christ, le peuple de Dieu, peut le vivre. C'est fort, mais cette humilité donne un autre ton au peuple de Dieu et à la vie d'Église, qui est si différente que ce que nous trouvons dans ce monde. Et finalement, il y a une beauté dans cette démarche. Donc cette prière, elle est saturée de la Bible, elle est saturée d'humilité. Et puis, ce que j'aime dans cette prière aussi, c'est qu'elle s'intéresse surtout à la gloire de Dieu, à son nom. C'est ainsi qu'il termine sa prière. Dans les versets 18, 19. Seigneur, il dit, c'est ta ville, c'est ton nom qui subissent un opprobre aujourd'hui. Les gens, ils regardent ta maison et ta ville, il pense que tu es impuissant. Il pourrait penser que tu es impuissant. Alors il dit, agis. Et le verset 19 dit, agis par amour pour toi, ô mon Dieu. Voilà ce qui va tirer nos moments de prière vers le haut. Nos moments de prière individuels, nos moments de prière, nos réunions de prière en église. C'est lorsque nous pensons au nom de Dieu, à la gloire de Dieu. Lorsque nos priorités ne sont pas uniquement juste le confort et le dépannage personnel, c'est pas ça qui motive la prière de Daniel, juste un confort personnel, d'être dépanné. Mais ce qui motive sa prière, ce qui donne du poids et de la beauté à sa prière, c'est qu'il pense à Dieu, à son renom, à sa gloire. Donc cette prière nous aide dans nos moments de prière. Au moment de cellule en semaine, les temps de prière dans la salle de prière entre 10h et 10h30, que tous vous êtes invités à participer dans nos cultes. Daniel, la prière de Daniel devient modèle pour nous tous. Mais c'est aussi l'exaucement qui nous interpelle ce matin. Donc, une telle prière qui est si biblique, qui est si humble, qui s'intéresse aux priorités de Dieu, elle connaîtra un exaucement. Mais ici, Dieu répond bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer, ou penser, en tout cas Daniel, ce qu'il pourrait imaginer. Et vous avez la réponse de Dieu dans les versets 20 à 27. Et c'est cet homme, cet ange Gabriel, qui lui apporte la réponse. Et cette réponse, il va expliquer aussi les autres visions que Daniel a eues et qui a troublé Daniel, qui l'a aussi motivé à prier Dieu. Et cette réponse, elle est vaste. Elle vise loin et haut. Vous savez, il arrive à un mari, peut-être pas vous, mais il arrive à un mari de poser une question simple à son épouse, s'attendant à une réponse simple, et elle lui répond avec toute l'histoire de sa journée, tous ses états d'âme, tous les détails, tous ses projets, pour qu'il saisisse, qu'il comprenne bien la réponse. Eh bien, c'est ce que Dieu fait pour Daniel ici. Lui, il prie pour une restauration après 70 ans. Et Dieu, il répond avec un projet bien plus grand. Et la réponse de Dieu, c'est que oui, je vais purifier mon peuple. Oui, je vais ramener mon peuple. Oui, je vais délivrer mon peuple. Et dans un sens, je vais le faire en 70 ans. Mais, en fait, mon projet plus grand, je vais prendre un peu plus de temps que ça. Pas juste 70 ans, mais 70 fois 7. Donc, je vous montre ça dans le verset 24. Ok, Daniel, sois attentif à la parole et comprends ceci. Verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur ta ville sainte. Ce mot semaine, c'est littéralement septaine. Donc, le mot hébreu pour semaine et septaine, c'est pareil. Donc, 70 septaines ont été fixées pour répondre à ce que tu demandes finalement. Alors, et c'est là où les interprètes commencent à s'activer, s'agiter, se creuser la tête. Que veut dire ces 70 semaines? Alors, tout le monde est d'accord que les semaines sont pas des semaines de 7 jours littéralement, c'est des semaines symboliques. Donc, Daniel priait pour une délivrance après 70 ans, mais Dieu va délivrer son peuple en 70 fois 7, 70 septaines. Alors, c'est quoi tout ça? Eh bien, c'est vrai que la captivité babylonienne a duré environ 70 ans. Après quoi, il y a eu le retour avec Esdras et Néhémie. Vous avez ces livres de la Bible qui expliquent le retour à peu près environ 70 ans où ils ont commencé, ils ont pu reconstruire un temple et reconstruire la ville. Mais ce retour après 70 ans pointe vers un retour et une restauration bien plus importante que Dieu a promis de faire et quelque part qui comprend son plan jusqu'à la fin du monde, jusqu'à dans l'éternité. Parce que regardez maintenant le verset 20, encore le 24. Voici le projet de Dieu pour répondre à la prière de Daniel, qui va faire en 70 septaines, en 70 quelque chose. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Et là, il y a 6 choses que Dieu va accomplir. Verset 24. Faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité, amener la justice éternelle, sceller la vision et le prophète, et oindre le Saint des Saints. Et quand on creuse ces choses-là, on dirait oui, finalement, ça décrit plus qu'un retour géographique, mais ça décrit tout ce que Dieu veut faire pour ramener tout son peuple, non seulement de l'exil géographique, physique, mais de l'exil spirituel causé par le péché et le mal. Et pour nous faire vivre enfin un repos éternel, un jubilé éternel. Et nous, en tant que chrétiens, nous croyons que c'est par Jésus, c'est par le Messie que Dieu va pu accomplir ce décret de mettre fin au péché, de faire cesser les transgressions, d'expier les iniquités, d'amener la justice éternelle. C'est par Jésus. D'abord, par sa première venue, lorsqu'il est venu pour mourir sur la croix et ressusciter, et il va tout accomplir, mettre fin à tout ce projet de salut lors de son retour que nous attendons. Alors, vous voyez, Daniel prie pour le retour et la restauration de son peuple, dans leur ville, Jérusalem, dans un sanctuaire. Et c'est vrai que Dieu va accomplir ça. Plusieurs étapes, mais Dieu a accompli réellement ces choses. Mais Dieu vise plus encore. Il veut ramener tout son peuple, non seulement le peuple juif, mais tout son peuple. Il veut ramener tout son peuple de l'exil spirituel et les installer enfin dans, et la Bible termine ainsi, dans une nouvelle Jérusalem, dans un sanctuaire saint, où quelque part le paradis entier devient ce saint des saints, ce lieu saint, ce temple. Il n'y a plus de temple, mais c'est Jésus qui l'est pour nous. Et quelque part, c'est à ce moment, enfin, que toutes ces choses, toutes les prophéties de l'Ancien Testament, toutes les visions que Daniel voit, toutes ces choses trouvent leur plein accomplissement. Même si Dieu les accomplit par étapes, parfois de manière littérale, parfois de manière symbolique, mais toujours en visant cet état final dont nous lisons en Apocalypse, où nous pouvons enfin parler de ce jubilé éternel, cette libération totale, ce repos parfait, ce pays promis, ce retour de l'exil, mais l'exil qui date depuis le jardin d'Éden, où nous avons été chassés du paradis à cause du péché. Le projet de Dieu, c'est de nous ramener dans sa présence. Et a priori, ça va lui prendre 70 fois 7 ans pour le faire. Et là, dans le verset 25, on va creuser un peu plus des détails, le verset 25 découpe ces 70 semaines en trois groupes, 7 semaines plus 62 semaines plus une semaine finale. Vous voyez ça dans le verset 26. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché, il n'aura pas de successeur. Et verset 25, sache-le donc, comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera bâti jusqu'au Messie, il y a 7 semaines et 62 semaines. Alors, tout ça, ça commence à être bizarre, c'est sûr, il y a 7 semaines, 62 semaines et jusqu'au Messie. Mais la plupart des commentaires disent, ils font un peu les calculs, si ces semaines sont des semaines de 7 ans, ça correspond quand même à des périodes importantes pour le peuple juif. Il a fallu entre Daniel et le retour au pays avec Néhémie, il y avait à peu près 50 ans. Donc le temps de commencer à, que ce roi Cyrus les a laissés repartir pour reconstruire le temple jusqu'à la fin de l'Ancien Testament. On a à peu près 50 ans. Après 62 semaines, ça pourrait correspondre à toute cette période entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est vrai, c'était des temps fâcheux pour le peuple juif, comme dit le verset. Il fallait quand même qu'ils se défendent avec les fossés, tout ça, autour de la ville. C'était des temps fâcheux aussi parce qu'il n'y avait pas de prophète. Il y a ce temps de silence. On parle de temps de silence entre le dernier prophète de l'Ancien Testament, Malachie, et puis l'arrivée du Messie. Et donc ça correspond à peu près, si on calcule les ans, ça pourrait dans 7 ans entre Daniel et Néhémie. Et puis, c'est 62 semaines entre Malachie et le Nouveau Testament. Et après, il parle d'un Messie retranché. Ça, c'est une prophétie étonnante. Ici en Daniel, que le Messie sera retranché. Ça parle de la mort. Et déjà, les premiers chrétiens, ça posait problème pour beaucoup lorsque les premiers chrétiens annonçaient ce Messie Jésus, il était crucifié. Et les gens disaient, mais non, un Messie ne peut pas connaître ça. Et pourtant, même Daniel avait parlé d'un Messie retranché. Donc c'est une prophétie très intéressante. Même si on ne comprend pas tout ici, déjà l'idée d'un Messie retranché, ça nous parle, ça confirme notre foi dans un Jésus crucifié. Donc, il fallait 69 semaines, 7 plus 62, entre Daniel et le Messie retranché. Et puis le verset 27, enfin, termine, c'est pour arriver au 70. Vous avez les 7 qui amènent la fin de l'Ancien Testament, 62 qui parcourent jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'au Messie, et puis une semaine finale. Et ça, c'est la plus compliquée à comprendre. Moi-même, j'ai pas tout saisi. Mais on a un élément de réponse, il me semble, dans le verset 23, parce que cette réponse à la prière, cette réponse de Dieu, c'est pour expliquer la vision, pour que Daniel comprenne la vision qu'il a reçue. Et tout au long de sa livre, il a reçu finalement, il a vu plusieurs visions. On a vu, il y avait les statues de Nebuchadnezzar, puis aussi il y avait des bêtes féroces, puis il y avait le bouc et le bélier, et puis dans les chapitres finaux, il y a encore des visions un peu bizarres. Mais finalement, si vous creusez un peu, c'est 5 visions, mais c'est la même vision. Daniel voit à peu près la même chose, et c'est ce panorama de l'histoire que Dieu lui montre, entre les royaumes qui vont se succéder. D'abord Babylone, et puis l'empire Médo-Perse, et puis les Grecs, et puis un quatrième empire. Et après, ces 4 empires vont être les uns après les autres renversés pour donner lieu au royaume éternel de Dieu. Alors les 3 premiers royaumes que Daniel avait vus sont nommés. Babylone, Mèdes et Perses et Grecs dans ce livre même. Mais le quatrième n'est pas nommé. Donc, on pouvait facilement l'associer à l'Empire romain qui a suivi l'Empire grec. Et l'Empire romain qualifie de plusieurs de ces versets. Je reviens à verset 26. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché, il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef viendra, détruira la ville et le sanctuaire. Et c'est vrai que l'Empire romain a fait ça. Peu après le Messie retranché, l'Empire romain est venu à Jérusalem, ils ont rasé la ville, ils ont rasé le temple. Mais la plupart pensent que cela pointe vers une puissance finale qui ressemble à l'Empire romain en bien des points. Cette puissance finale qui s'oppose à Dieu, qui est en quelque sorte le résumé, l'ensemble de tous ces royaumes anti-Dieu, tout comme Nebuchadnezzar s'est pris pour Dieu et a voulu que les gens l'adorent, tout comme Darius a voulu que uniquement on prie pour à lui, tout comme Antiochus, un roi grec, avait profané le temple, la Bible parle qu'à la fin des temps, il y aura cet antichrist qui va agir de la même manière. Et donc, beaucoup pensent que cette 70e semaine parle de la montée en puissance et puis la chute de ce royaume final. Et ainsi, le tour sera bouclé. Bien sûr, vous pouvez, il y a différentes manières de compter, mais tout le monde est d'accord qu'à la fin, Dieu gagne, ses ennemis sont renversés et son peuple est délivré. On peut être d'accord sur ça, je pense. Alors, ce matin, peut-être, c'était difficile à suivre, j'ai fait mon mieux, mais Daniel 9 n'a jamais été simple. On n'a pas fait le tour du monde en 80 jours, on a fait le tour de l'histoire en 70 semaines. Peut-être cela vous laisse avec plus de questions que de réponses, mais ne vous inquiétez pas, c'était le cas de Daniel aussi. Daniel, il n'a pas vu toutes ces choses s'accomplir, donc ça restait flou pour lui. Mais même s'il n'a pas tout compris, même s'il n'a pas vu, cela a motivé sa fidélité et une vie de prière constante. Et je vous laisse avec ce détail, c'est que la plupart des visions que Daniel a reçues, dont le chapitre 9, ont eu lieu, il les a reçues avant la fameuse fosse aux lions. Parce que Daniel n'est pas forcément classé parfaitement chronologique dans les visions qu'il reçoit. Alors, les visions qu'il reçoit, certaines qui ne comprennent pas tout à fait, les bêtes féroces, les royaumes qui vont se succéder, mais quelque part, tout ça, il peut savoir que Dieu reste fidèle. Et quoi qu'il arrive, quoi que les rois et les royaumes de ce monde disent, il sait que Dieu est le plus fort, que Dieu a fixé les temps et les décrets pour délivrer son peuple. Et je me dis que voilà, et quand il était face à ce fosse aux lions, il pouvait se rappeler qu'il savait être un bien-aimé, comme le rappelle Gabriel, et que même s'il devait passer à la fosse aux lions, ça ne change pas la fidélité et la réalité des visions de Dieu. Et donc, il est devenu un modèle pour tout son peuple en exil. Son peuple va connaître d'autres exils par la suite, d'autres temps d'exil. Mais Daniel devient ce modèle, non seulement pour son peuple, mais pour nous, le peuple chrétien, qui nous attend aussi notre délivrance, notre retour, notre jubilé auprès de Dieu. Mais en attendant, nous pouvons toujours prier, nous pouvons vivre cette vie de prière, en sachant que Dieu va exaucer et répondre à toutes ses promesses dans la Bible. Et Daniel, ce qui me frappe aussi dans ce passage, c'est que Daniel, il confesse le péché. C'est vraiment une prière de confession. Nous avons péché, nous n'avons pas obéi. Et je trouve ça assez fort, parce que quand je regarde la vie de Daniel, je trouve que lui, il n'était pas vraiment un grand pécheur. Je le vois plutôt un homme intègre, droit, on pouvait l'accuser de rien. Et il confesse son propre péché, donc ça montre une grande humilité personnelle. Mais je me dis, Daniel, lui, il ne méritait pas cet exil, toutes ces 70 ans, lui, il me semble innocent, mais il s'associe à son peuple et il confesse son péché. Et nous connaissons un autre Daniel, un meilleur Daniel, c'est Jésus-Christ. Et lui, le grand innocent, Il est venu, il nous a rejoints dans notre exil, dans notre peine, dans notre détresse. Et lui, il s'est associé à nous non seulement pour confesser avec nos péchés, mais il est allé sur la croix pour encaisser la punition de nos péchés. Jésus a fait plus que Daniel. Jésus était complètement innocent. Il ne méritait pas l'exil, mais il a vécu à la croix pour nous, à notre place, pour nous ramener à Dieu. Et c'est ce message, cette bonne nouvelle qui inspire notre foi, qui nous ouvre une vie de prière merveilleuse dans la présence de Dieu. Et notre vie de prière est un reflet de notre attente de ce qu'un jour nous serons dans la présence de Dieu, dans son royaume éternel. Nous allons pouvoir enfin être chez nous, chez lui, et le glorifier à toujours. Que ces pensées, que ces prophéties nous encouragent à vivre aujourd'hui. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ce message de Daniel qui dit que c'est toi le Dieu suprême, c'est toi qui domines sur les nations et les rois. Tu as le projet de purifier ton peuple. Parfois, tu nous fais passer par un exil, des moments difficiles, mais c'est pour notre bien. Tu as le projet de délivrer ton peuple, de nous ramener dans ta présence pour l'éternité, de nous faire vainqueurs. Surtout, Seigneur, nous attristons quand nous voyons des puissances ici-bas ravager, dévaster les vies, puisqu'ils se prennent contre toi, parce qu'ils se mettent à ta place. Nous ne voulons pas participer à ces activités anti-Dieu, anti-Christ. Nous voulons suivre ton royaume, être fidèles comme Daniel. Seigneur, surtout, nous te remercions pour ces prophéties, mais nous te remercions qu'il y a des spécialistes de la prophétie des fins des temps, mais nous voulons surtout être des spécialistes de l'humilité, de la confession de nos péchés, de la foi en ta grâce et ton retour. Et c'est ça qui va nous transformer de jour en jour. Rends-nous fidèles encore à notre époque. Au nom de Jésus-Christ. Amen.